Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Journée spéciale Abderrahman Sissako sur RFI. Le réalisateur mauritanien est avec nous tout au long de la journée. Vous allez le retrouver également aux côtés d'Emmanuel Bastide, de Jean-François Cadet, d'Alain Pilot, d'Annie Gasnier. On vous retrouvera également aux côtés de Laurent Sadou dans Afrique Midi. Abderrahman Sissako, votre film sortira demain sur les écrans français, Timbuktu, film qui était en compétition en mai dernier, compétition officielle au Festival de Cannes. C'était la première fois qu'un de vos films était en sélection officielle. En compétition officielle. La Palme d'Or, ce sera pour la prochaine fois, c'est sûr.
J'en profite pour dire que chez moi, en Mauritanie, j'ai beaucoup de palmiers. Ouais. En fait, donc, on peut ne pas en avoir de Cannes. Et voilà. Mais l'important, quand même, c'était d'être dans ce festival prestigieux qui est la rencontre la plus importante pour un cinéaste.
Vous êtes le rédacteur en chef d'Appel sur l'actualité durant encore 20 minutes. On parlait tout à l'heure du tripatouillage des constitutions sur le continent africain. On a commencé à parler de la désignation de Michaël Jean. On va donner la parole dans un instant aux auditeurs et vous attendez également les commentaires et les réflexions des auditeurs des RFI sur les violences racistes de la police américaine et les manifestations, la colère des citoyens américains aujourd'hui qui dénoncent une attitude de plus en plus contestable de leur police. Si vous souhaitez dialoguer, débattre avec Abderrahman Sissako, un seul numéro, 33 9 693 693 70. Et vous continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de l'émission. Abderrahman Sissako, vous nous disiez tout à l'heure que Michaël Jean, sa désignation, c'était un tournant dans la francophonie, car elle était d'abord une femme et qu'elle n'était pas une personnalité africaine. Elle a été préférée quand même à 4 candidats africains qui étaient également en lice. Comment faut-il interpréter ce choix?
Bon, il y a d'abord une raison technique, le fait que l'Afrique n'a pas pu s'unir autour d'un candidat, donc ça montre aussi la faiblesse quand même un peu de ce continent, que le consensus est difficile, que bon, c'est bien aussi, que même ça c'est un tournant pour moi positif, que l'Afrique finalement ne se décide pas à suivre, à mettre une personne, parce que il faut quand même casser ce principe, il faut plutôt privilégier la compétence. Privilégier la compétence et les symboles aussi. Je pense, je reviens là-dessus, que nommer une femme compétente, pas parce qu'elle est femme, parce qu'elle est compétente aussi, quelque chose de, est un beau signe.
Allez, Jean-Pierre est à Dakar, il souhaite lui aussi réagir à cette désignation. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour Juan et bonjour à Abderrahman et à tous les visiteurs des RFI.
Merci, bonjour.
Voilà, Je suis très ravi d'entendre Abderrahman parler de Michaël Jean dans ses mots, parce que j'abonde dans son sens, parce que je crois qu'à mon avis, l'arrivée de Michaël Jean est en parfaite adéquation avec la demande de la France la plus jeune de l'espace francophone aujourd'hui. N'oubliez pas que le président Diouf, qui quand même est un homme de qualité, mais s'est beaucoup appesanti sur les aspects politiques dans son mandat, pour dire dans ses mandats. Mmh. Et donc, Michaël Jean, de par son profil, n'oublions pas que c'est une grande manipulatrice de la langue française, elle a été journaliste, gouverneure au Canada, elle parle beaucoup de langues, et donc c'est une icône pour la jeunesse. Et je pense qu'elle est à même, n'est-ce pas, de diluer les actions politiques avec les actions culturelles, et cette jeunesse qui attend beaucoup de la francophonie, oui, serait ravi de voir une telle personne appelée la francophonie.
Oui, vous parlez de culture, vous parlez de politique. Au risque de vous décevoir, Jean-Pierre, elle a plaidé pour une francophonie moderne et cela passe, a-t-elle dit, par un virage économique. Donc elle n'a pas parlé de culture.
Ben oui, c'est un plaidoyer. Donc je prends ce propos comme un plaidoyer que les jeunes formulent.
Oui, je pense que
Abderrahman Sissako.
Oui, je voulais juste, tout en étant d'accord avec ce que vous dites en partie, mais ce qui est important finalement en Afrique, il ne faut pas encore une fois penser que c'est l'autre qui va résoudre nos problèmes culturels, politiques, économiques. C'est un symbole, hein, mais tout ce qui est culturel dans ce continent-là et économique aussi doit venir de l'intérieur. C'est à nous de nous mobiliser. Il ne faut pas compter sur la francophonie pour qu'il y ait un changement culturel important dans le pays ou sur le continent.
Jean-Pierre ?
Oui, mais je suis en partie d'accord avec mon frère Abderrahmane. Mais ce que je dis, c'est que la jeunesse aujourd'hui, quand on parle de francophonie, ne se retrouve pas. Alors, on a l'impression que la francophonie, c'est un bras séculier de la France-Afrique. Et je pense qu'il faut s'écarter de cette image.
Je suis d'accord, je suis absolument d'accord. C'est là où je pense que les raisons, enfin, le côté politique de la francophonie qui a résolu des choses, je veux vraiment relativiser ça. Je pense pas qu'il y ait un bilan politique soi-disant parfaite de la francophonie. Je crois pas. Et c'est pas ça, sur ça qu'il faut mettre l'accent. Je trouve que l'économie aujourd'hui est un sujet important dans le continent. Donc s'il y a une impulsion dans ce sens-là, qui est le choix de Michel Jean, je trouve ça vraiment très intéressant.
La francophonie, c'est un point économique qui représente tout de même 13% du produit intérieur brut mondial et 20% des échanges commerciaux internationaux.
Voilà, mais en même temps, il ne faut pas que, sur cette idée de l'économie de la francophonie, que l'Afrique devient encore une fois un intérêt économique qui va profiter aux autres. C'est ça aussi. Il ne faut pas, nous amener dans ça. Bref, en tout cas, bon, c'est à l'Afrique de se gérer.
Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Bordeaux.
Bonjour Abderrahmane.
Bonjour Patrick.
On vous écoute.
Je voudrais intervenir à propos de l'élection de Michel Jean, précisément, au niveau de ce poste de secrétaire général de la francophonie. Déjà, je voudrais rappeler tout simplement qu'elle représente déjà la diversité culturelle de par ses origines africaines, de par sa nationalité canadienne et de par également Haïti qu'elle représente et par la France, notamment par ses liens de matrimoniaux. Mmh. Voilà. Donc en tant que tel, Michel Jean représente un peu la francophonie plurielle.
Tout à fait.
D'autre part, je voudrais m'appesantir sur une autre dimension qui est le fait qu'elle soit une femme. Michel Jean représente quelque part ce nouveau souffle qu'on veut impulser à la francophonie. On a toujours un peu critiqué la francophonie comme quelque chose de vieillotte, quelque chose de très éloigné de la population, quelque chose de très éloigné des peuples. Michel Jean, c'est la francophonie des peuples, pour moi.
D'accord.
C'est la francophonie plurielle, c'est la francophonie des peuples. Et d'autre part, de part même également son parcours, qui est quelqu'un qui occupait des fonctions de gouverneur général du Québec dans un regard...
Du Canada.
Pardon.
C'est pas grave.
Gouverneur général du Canada, pardon. Elle a un regard macro et micro des réalités. Voilà.
Très bien, merci Patrick. Bonne journée à Bordeaux. Abderrahmane Sissako, petite conclusion sur la francophonie avant de parler d'un tout autre sujet.
Oui, ce que je veux dire par là aussi, qu'il faut y aller peut-être un peu doucement, ne pas porter trop d'espoir sur une femme ou sur la francophonie qui va résoudre les questions du continent. Mais dans le symbole, c'est quelque chose de formidable. Et moi, j'aime beaucoup ce que Patrick vient de dire sur une francophonie plurielle, qu'elle parle anglais, qu'elle est haïtienne et canadienne aussi. Pour moi, c'est une chance et c'est bien.
Elle a parlé anglais, d'ailleurs, juste après sa désignation à Dakar, ce qui a froissé certains puristes.
Mais je trouve dommage que le fait de parler une autre langue puisse froisser des gens. Non, c'est une richesse.
Abderrahmane Sissako, encore 10 minutes, rédacteur en chef d'Appel sur l'actualité, 33 9 693 693 70. Autre sujet qui retient votre attention, les violences policières racistes aux États-Unis, des policiers blancs qui tuent des noirs non armés. Ça vous inspire quoi?
Oui, je pense que c'est un choc, hein, un choc aujourd'hui, que de telles bavures se passent dans ce pays de la démocratie, entre guillemets, et que dans une forme presque d'indifférence de la justice, hein, c'est ça qui choque aussi, que non seulement il y a la violence contre une communauté, pratiquement, parce que avec l'amalgame que blanc, ça veut dire noir, ça veut dire délinquant, c'est ça. Hein? Mmh. Et c'est terrible ce qui s'est passé ces derniers temps. Et pour moi, c'était important que ça fasse partie de l'actualité, que nous puissions en parler, parce qu'il y a un sursaut. Même aux États-Unis autour de ça, les gens sont révoltés.
Bien sûr, on voit les manifestations quotidiennes.
On voit les manifestations de blancs, de latinos, de noirs, hein, tous ensemble, contre ça.
Ça signifie quoi, selon vous, que encore aujourd'hui, derrière les drames de Ferguson, New York, Phoenix, c'est la question du racisme qui...
Oui, ça veut dire que le débat de race n'a pas été vraiment ouvert aux États-Unis. N'oubliez pas que le droit au vote pour les noirs est très récent, c'est 64. C'est vraiment très récent. Et donc, il fallait qu'il y ait non seulement le débat, mais qu'il y ait une justice sociale. Hein, parce que, et on voit que quand même le pourcentage de la population reste vraiment pauvre par rapport aux blancs. Et donc, il y a une question d'inégalité aussi sociale qui est très très forte.
Au standard, Fabrice est avec nous. Bonjour. Francis, pardon. Bonjour Francis.
Oui. Oui, bonjour, bonjour Yvan.
Vous êtes à Brazzaville, on vous écoute avec Abderrahmane Sissako.
Oui, merci beaucoup, je salue en passant Abderrahmane Sissako. Et puis, je voudrais aller dans le même sens que lui, en disant que ce qui se passe aux États-Unis, c'est à la fois un choc, mais surtout un recul que nous constatons de la part de ce grand pays, de cette grande nation, contre le fait que... la démocratie est un modèle, c'est nous autres Africains, quand nous regardons les États-Unis, nous regardons la France, c'est eux qui sont les champions de donneurs, en tant que donneurs de leçons. Alors, constatez qu'aujourd'hui, la police n'arrive pas, ou plutôt brille par cette attitude très très négative, je pense que c'est véritablement un recul. D'abord un recul parce qu'au niveau des méthodes qui sont utilisées par la police, ça nous choque,
Francis ? Ah, la ligne s'est interrompue avec Brazzaville, on va essayer de le rappeler dans un instant. C'est vrai que on a l'impression aujourd'hui, en 2014, que quand un noir est jugé menaçant, finalement on peut le tuer.
Oui.
On peut le tuer comme une bête enragée. Et finalement, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la justice, c'est qu'on l'a vu aussi bien, je crois que c'était à Ferguson, oui c'est sûr, et même à New York, le grand jury décide de ne pas poursuivre les policiers blancs.
Oui, le mot recul de Francis est très bien choisi. Hein. Non seulement c'est pas trop fort, mais c'est vrai qu'il y a un vrai recul de la démocratie dans ce pays respectable, qui fait beaucoup de victoires. Moi, j'ai été vraiment choqué par la mort de Tamir Rice, ce petit garçon. Quand vous voyez ces images-là, vous avez la chair de poule. C'est terrible qu'il y ait un garçon de 12 ans qui joue avec un pistolet, parce que ça dure longtemps, hein, la scène dans la rue, et que deux hommes arrivent en voiture, sortent et le tirent et le tuent à bout portant. C'est vraiment choquant.
Ouais. Que peut faire Barack Obama? Que doit faire le président américain, premier président noir à la Maison Blanche? Et est-ce qu'on s'attendait pas à mieux de sa part? Puisque pour l'instant il réagit, mais enfin ces déclarations sont assez.
Oui, c'est pas facile. Hein, et c'est pas facile de porter une présidence avec une couleur de peau, hein, déjà. Hein. Donc, je crois que ça c'est un vrai problème. Barack Obama, il me semble, est un peu seul. Hein. Depuis longtemps, les États-Unis, c'est pas seulement un homme, c'est quand même une constitution. Et c'est pas une tâche facile.
Autre réaction, elle nous vient de Washington. Bonjour Issa.
Bonjour Juan, bonjour Abderrahmane, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Bonjour Issa.
Indigné par les bavures policières, on vous écoute.
Oui, effectivement Juan. Tout d'abord, je voudrais m'incliner sur la mémoire de ces personnes disparues via la bavure de la police américaine. Voilà, je disais que ces choses-là existent depuis fort longtemps, mais maintenant avec les réseaux sociaux, ces événements prennent plus d'ampleur. Maintenant, moi je me disais que la façon dont, la manière dont la police blanche appréhende les Afro-Américains doit être changée. Il faut que ça change. Et je n'en veux que trois preuves. C'est le cas de Missouri, Michael Brown, qui a été tiré avec 12 balles. Il n'était pas armé. Il n'avait commis aucun crime. Et le cas de Eric Garner, de New York, qui a été étouffé par trois policiers. Il a dit à 11 reprises, I cannot breathe, je ne peux pas respirer. Il n'avait commis aucun crime.
Effectivement.
Il n'était pas armé.
Ouais. Ça en dit quoi, Issa, vous qui vivez sur place, ça en dit quoi sur la société américaine aujourd'hui?
Bon, les avis sont partagés, les avis sont partagés,
les protestations... Votre avis à vous?
Le vôtre. Moi, personnellement, je me dis que la manière doit être changée, vraiment. La manière d'appréhender la couleur noire, les Afro-Américains, ça doit être changé par la police blanche. Puisqu'on ne peut pas voir quelqu'un, un innocent désarmé, un innocent qui n'a rien commis comme crime, être abattu par 12 balles, je me dis vraiment que ça doit changer. Ça doit vraiment changer.
Abderrahmane Sissako.
Je pense qu'il faut effectivement, il faut qu'il y ait une justice beaucoup plus indépendante, une justice beaucoup plus forte. Hein, et on voit que les jurés, s'il y en a 10, il y a au moins 8 ou 9 qui sont blancs. C'est dommage de parler de couleur de peau dans ces choses-là, mais il faut quand même qu'il y ait une sorte de affirmative action, comme ils le disent là-bas, où il y a
discrimination positive.
Discrimination positive, parce que les États-Unis, c'est ça, c'est pas seulement blanc, c'est pas seulement noir, c'est voilà.
Il nous reste 4 minutes pour prendre beaucoup de questions standards qui vous sont directement posées. Abderrahmane Sissako, bonjour Mamadou.
Bonjour Monsieur Rouen.
Vous êtes à Conakry, on vous écoute rapidement s'il vous plaît.
Ok. Bonjour Monsieur Sissako.
Bonjour Mamadou.
Croyez-vous sincèrement que le cinéma africain a de beaux jours devant lui?
J'ai envie de donner une réponse d'un ami cinéaste burkinabé, Pierre Yamugo, qui a beaucoup d'humour. Hein. Pierre disait que comment voulez-vous que le cinéma africain marche si les dispensaires ne marchent pas? C'est pour dire que s'il y a un combat en Afrique dans beaucoup de choses et que malheureusement il n'y a pas cet élan très fort pour défendre la culture et donc voilà. Mais quand même les talents existent et donc je suis plutôt optimiste.
Vous serez au FESPACO?
Inch'Allah.
En mars prochain?
Inch'Allah.
Moussa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Djamena, nous vous écoutons.
Et bonjour à tous. Oui, bonjour Wane, bonjour Monsieur Sissako.
Bonjour.
Bonjour, j'ai trois des séries de questions à vous poser. Comment avez-vous obtenu des financements pour ce film? Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant votre tournage? Est-ce que vous avez été menacé de près ou de loin?
Alors, avez-vous été menacé de près ou de loin pendant le tournage de Timbuktu?
D'abord, la production. Je fais des films en France depuis un certain temps. Donc, je travaille beaucoup avec la chaîne Arte, donc qui me fait confiance quand j'ai un projet. Donc, les choses s'enchaînent assez vite. Et donc, j'arrive à faire des films, je dirais pas sans problème, mais un peu plus facilement que d'autres qui n'ont pas cette chance-là.
D'accord. Donc, quand vous commencez à écrire un scénario, vous ne posez pas forcément la question du financement du film.
Oui, parce que c'est pas des films.
C'est un luxe, hein. C'est...
Oui, c'est pas des films très chers non plus. Voilà. Deuxième chose, le film a été tourné à Ouallata. J'en profite d'ailleurs.
C'est-à-dire en Mauritanie.
En Mauritanie, j'en
et
profite.
Et non à Timbuktu ou au Mali.
Voilà. Ouallata est une ville jumelle qui ressemble beaucoup à Timbuktu. Et, donc j'en profite pour saluer les habitants de Ouallata. Et ça a été possible grâce, mais vraiment à un soutien très fort de l'État mauritanien, qui a mis voilà, à notre disposition une armée pour sécuriser le tournage. Et voilà, il n'y a pas eu de problème. Ça a été quelque chose de belle expérience.
Ouais. Je me fais le porte-parole de Tidiani, c'est dommage, on ne l'a pas, il nous appelait de la région de Mopti. Et ils ont été nombreux, les auditeurs, à nous poser cette question toute simple. Oui. Pourquoi avez-vous choisi ce titre de Timbuktu?
Alors parce que c'est un symbole qui a été pris en otage. Hein, au-delà de Timbuktu, la ville du Mali, le Nord Mali, mais Timbuktu, tout, c'est d'abord un esprit, c'est une force voilà, qui appartient à l'humanité. Je trouvais que le titre Timbuktu était beaucoup plus ouvert et on quittait un peu une histoire franco-africaine. Voilà pourquoi c'est Timbuktu.
Ouais. Merci beaucoup Abderrahmane Sissako. Vous ne partez pas, vous allez rester évidemment dans les couloirs de Radio France Internationale. On va vous retrouver tout à l'heure aux côtés d'Emmanuel Bastide. Vous allez parler du rôle des femmes dans le nord du Mali. On vous retrouve également aux côtés de Laurent Sadou pour Afrique Midi. Vous allez parler football avec notre ami, j'ai des trous de mémoire là tout d'un coup, mais bon, on va parler en tout cas football avec Annie Gasny. Voilà, ça m'arrive, ça me revient, voilà, tout à l'heure avec
une scène
mémorable.
Que...
Vous écoutez le football? Vous aimez ça?
Oui, oui, oui. Moi, j'écoute RFI.
Très bien. Je vous présente Claire Hédon. Bonjour Claire.
Bonjour.
Ben voilà, vous la découvrez en direct.
C'est ma préférée.
Ah, c'est votre préférée, ben voilà.
C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Je me dis, je suis désolée, pourquoi d'ailleurs vous ne seriez pas intervenue aussi dans une émission de santé,
je
franchement.
Je me suis posé la question, parce que c'est vraiment mon émission préférée.
On aurait pu parler santé au Nord Mali, effectivement, et accès aux soins. Je reçois justement une Malienne, vous savez, aujourd'hui, parce que c'est les journées françaises de dermatologie, qui est une journée spéciale peau noire, et je reçois entre autres une dermatologue.
J'aurais besoin de vous, mais bon, je ne le dis pas à l'antenne, mais
d'accord.
On va se parler à
vous. Vous réglez ça dans quelques instants.
Quand même, je le donne.
attendez, une petite. Oui, alors allez-y pour le téléphone de Priorité
je
Santé.
Je continue, moi, allez-y. Vous savez, vous me le donnez le micro.
Vous pouvez
je le garde jusqu'au
heures,
bout. 33 1 84 22 75 75 si vous avez justement des questions à poser sur des problèmes de peau noire.
Voilà.